tête, vos dunes se sont fondées, mais je vous ai mis en garde contre ce fait de vous livrer à l'introspection qui vous conduirait au suicide. Vous devez regarder au Seigneur qui a vaincu et lui demander que l'épreuve que vous traversez soit vraiment pour la gloire de Dieu et donne au Seigneur la possibilité de transformer votre vie de maladie en un témoignage vivant qui prouve que votre bonheur ne dépend pas des circonstances dans lesquelles vous êtes, mais de votre relation personnelle avec Dieu. Tu transformeras tout ton lit quand il sera malade. C'est ce que nous lisons dans le psaume 1er. Enfin, hier soir, nous avons vu que Jésus a triomphé aussi de la mort. Cette mort dont Satan est devenu le maître de la mort, puisque c'est lui qui a fait entrer le péché dans le monde et par le péché la mort. Et nous avons lu dans Hébreux 2 que pendant toute leur vie, les hommes sont tenus dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Mais Jésus est venu et il a vaincu la mort, il a vaincu l'homme fort, il a pillé ses liens, il est sorti des liens de la mort et c'est en lui aussi que nous avons la victoire. Nous sommes délivrés de la crainte de la mort et nous pouvons connaître ce que nous avons appelé le troisième bonheur du chrétien, d'envisager notre départ avec joie, n'est-ce pas ? Avec joie. Il n'y a pas d'espérance pour le monde de demeurer toujours ici-bas. Il n'y a d'espérance pour personne, sauf pour ceux qui seront enlevés à la venue du Seigneur, de sorte que ce n'est pas la mort que nous attendons, mais nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir, mais peut-être que nous devrons passer avant par la mort. Alors, si nous devions passer par la mort, eh bien, ce n'est pas une catastrophe, c'est aller vers le Seigneur. Absent du corps, présent avec le Seigneur. Selon les paroles qu'il a pu dire, même au brillant sur la croix, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et être avec Jésus, c'est une part bien meilleure qu'être encore dans ce monde. Et nous devrions envisager la mort, non pas comme quelque chose de funèbre, mais nous avons dépassé cette vision et nous savons que notre bon berger sera avec nous-mêmes pour traverser la sombre vallée et qu'il nous accueillera. Et j'aime même dire que quand on a marché avec le Seigneur dans sa vie, eh bien, Jésus, on marche avec lui, puis tout à coup, on arrive au bord du fleuve de la mort, et Jésus nous dit, passons à l'autre rive, et nous passons avec lui. Et alors, quand nous arrivons de l'autre côté avec lui, les portails éternels s'ouvrent pour laisser entrer Jésus et l'âme qu'il a rachetée. Alors, il n'y a plus cette solitude affreuse. Quand nous devons quitter nos bien-aimés, quand nous devons nous séparer de cet environnement, le Seigneur qui a été avec nous tous les jours, il est avec nous aussi. Pour passer. Il n'y a pas un Jésus qui nous attend de côté, il est déjà avec nous et c'est lui qui nous fait passer sur l'autre rive. Alors oui, après le bonheur de la conversion, premier bonheur, il y a eu ce bonheur dans la marche, n'est-ce pas ? Oui, le bonheur et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il y a le troisième bonheur, c'est lever vers le Seigneur. Alléluia ! Voilà ce que nous devrions pouvoir dire. Mourir n'est pas une catastrophe, mourir c'est aller vers son Dieu. Non, ce n'est pas mourir du sentier, c'est aller vers son Dieu. Voilà ce qui doit habiter nos cœurs. Alors, on est complètement dépréoccupé de la crainte de la mort, parce qu'on a analysé hier, par l'Écriture, pourquoi, au fond, les hommes ont peur de la mort. C'est parce qu'ils savent très bien que tout n'est pas fini par la mort. Après la mort, suit le jugement, et pourquoi serions-nous jugés? À cause de nos péchés, donc c'est le péché qui nous tourmente, nos œuvres, nous ne savons pas si nous en avons accompli assez pour compenser nos œuvres, c'est pas une question de compensation, donc l'aiguillon de la mort, en finale, c'est bien le péché, et c'est à Jésus qu'il nous faut aller, parce que c'est lui qui a ôté le péché du monde. Voilà, en résumé un peu ce que nous avons vu, de sorte que si nous nous endormons dans le Seigneur, nous savons aussi que notre corps ressuscitera. Puisque Jésus est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons en lui à sa venue. Alors que si nous sommes vivants, nous serons en un instant, en un clin d'œil, transformés et enlevés auprès du Seigneur. Mais alors, dans ce dernier moment que j'ai avec vous, je voulais simplement souligner que si Jésus a toute autorité, toute puissance, tout pouvoir, il nous donne aussi cette autorité, cette puissance et ce pouvoir pour que nous soyons des êtres vraiment libérés, des sauvés. On n'est pas sauvé pour ne pas aller en enfer. On est sauvé pas en vue du jour de la mort, seulement on est sauvé pour vivre en chrétien, pour vivre authentiquement en chrétien sur la terre, dans ce monde, et le servir. Et c'est justement ce point que je voudrais traiter avec vous. Nous, nous sommes encore dans le monde. Le Seigneur est allé auprès du Père, mais il nous a laissés dans ce monde, mais pas en étant seuls. Il nous a envoyé un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui nous habite, qui est une personne réelle, une personne très sensible en nous, par laquelle nous pouvons savoir si nous sommes dans la bonne voie. Quand j'ai une mauvaise pensée, le Saint-Esprit donne un coup de cloche, je sais que je dois m'en juger, se juger de nos tendances, parce que nous avons des tendances personnelles, parce que nous avons vu que notre chair ne s'améliore pas. Le progrès spirituel, c'est de constater que le péché est toujours dans la chair, mais que nous devons nous tenir pour morts. Si nous nous tenons pour morts dans la mort de Jésus, le péché n'a pas de pouvoir sur un mort. Mais donc, il est question d'une vie de foi quotidienne et sans cesse renouvelée. Vous avez cru un jour, mais maintenant c'est chaque jour que vous croyez. Vous êtes sauvés par la foi et pour la foi, pour vivre désormais une vie de foi quotidienne, une foi dynamique. Chaque matin, nous sommes avec le Seigneur pour commencer la journée. Nous branchons la communication sur le ciel et alors nous avançons sans savoir ce qui peut arriver dans la journée. Mais nous savons que le Seigneur connaît la fin de nos journées comme il en a connu le commencement et qu'il nous dit la première parole à notre éveil. Ne crains point, je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, je suis ton Dieu. Oui, je t'aiderai. Oui, je te fortifierai. Oui, je te soutiendrai par ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir commencer la journée avec le Seigneur et d'aller dans la certitude de l'exaucement? Et alors, quand tout à coup une difficulté arrive dans le quotidien, eh bien, branché avec le ciel, nous avons tout de suite la communication, et il nous donne le secours au moment opportun. Comprenez-vous? On n'a pas besoin de se mettre en prière dans un coin, ou alors de piquer un verset biblique, et voilà qu'on tombe mal, n'est-ce pas? Alors on ferme la Bible, on recommence. Mais non, mais le Saint-Esprit devient notre mémoire, et si nous nous sommes nourris de la parole, il nous rappelle au moment opportun la parole nécessaire vis-à-vis de la tentation ou d'une exhortation quand nous avons de la peine à comprendre ce que Dieu veut. Tout à coup, la lumière nous est donnée. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sens. Nous devenons des Bibles vivantes et le Saint-Esprit nous rappelle la parole à propos et nous recevons ce secours dans ce monde que Jésus a traversé en vainqueur, puisqu'il a pu dire Ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. C'est pas moi qui vous donne ces paroles, c'est le Seigneur Jésus. Je ne veux être un canal pour vous rappeler les choses que vous connaissez déjà. Je vous lis dans Jean 16, verset 32. Voici l'heure vient, dit Jésus, à la fin de ses exhortations à ses disciples dans la nuit où il fut livré. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de vos côtés. C'est assez facile dans une assemblée d'être, se sentir ensemble dans une bonne ambiance, mais quand vous êtes seul, quand vous êtes dispersé, quand vous êtes dans le monde, eh bien, que va-t-il arriver? Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Oui, tous les disciples allaient le laisser, mais il ne serait pas seul parce que le Père était avec lui. Alors, nous-mêmes, nous n'allons pas laisser le Seigneur, puisqu'il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours. Restons proches de lui. Quand vous avez l'impression que Jésus s'est éloigné de vous, c'est pas vrai. Jésus ne s'est jamais éloigné de nous. Il est toujours près de nous. Et c'est nous qui nous éloignons de lui. Mais lui est près de nous. Il est près de nous. Alors prenons conscience de cela et jugeons-nous de tout ce qui pourrait nous éloigner de sa présence. Je sais très bien que je ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est quand je regarde ailleurs que je suis tombé. Oui, la chair est faible, et je sais ce dont ma chair est capable. Regardez David, le doux psalmiste d'Israël, ce qu'il a pu faire dans un moment où il n'était pas à sa place, et où il a regardé ce qu'il ne devait pas regarder. Il est tombé, et hélas, il a abrégé ses jours. David est mort déjà à 70 ans. Et Salomon, le plus sage, qui avait si bien commencé, dont nous connaissons la merveilleuse prière alors qu'il avait 20 ans, à quel âge est-il mort, vous le savez? Lui qui avait dit que celui qui suit les commandements du Seigneur, il prolonge ses jours, il est mort à 60 ans. C'est jeune, hein? Il est mort à 60 ans parce qu'il n'a pas mis en pratique ce qu'il avait écrit quand il était inspiré de Dieu. Si nous ne veillons pas à nos tendances, Salomon c'était la tendance des femmes, bon, eh bien il ne s'en est pas usé, comme Judas c'était la tendance de l'argent, l'amour de l'argent, on ne s'en est pas jugé, et un jour notre péché nous a prouvé. Ah, c'est une chose sérieuse, mes amis, de se juger quotidiennement, de ne rien tolérer. Quand le Saint-Esprit est actif en moi, je sais pourquoi il est actif. C'est peut-être par une pensée, c'est peut-être par une parole que je n'aurais pas dû dire, je dois le confesser au Seigneur. C'est peut-être par une action qui est répréhensible. Eh bien, le Saint-Esprit nous montre que nous ne sommes pas dans le chemin et il est là pour opérer en nous. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui opère. Alors ne construisons pas le Saint-Esprit, n'attristons pas le Saint-Esprit, n'éteignons pas le Saint-Esprit dans notre marche dans ce monde où tout est fait dans ce monde pour nous faire tomber. Alors, jugez de votre situation. Si vous voulez être encore ami du monde, eh bien, qu'est-ce que vous êtes selon Jacques? Ennemi de Dieu. Et vous commettez l'adultère spirituel. Celui qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Mais alors, c'est ça que je voudrais simplement souligner, vous donner quelques pistes de réflexion. Le mot « monde » a plusieurs sens dans l'Écriture, comme aussi le mot « chair ». Mais ce monde dans lequel nous sommes, où est descendu Jésus, qui était de condition divine, qui habitait dans la gloire, et il s'est incarné, et il est venu vivre dans ce monde. Et la connaissance de ce monde, pour savoir vraiment ce qu'est le monde, eh bien, c'est par Jésus que je peux avoir des yeux qui voient ce qu'est le monde, une vue juste au sujet du monde. Dans l'Écriture, il y a trois significations au monde. Le monde peut désigner, dans son sens cosmologique, l'ensemble de la création de Dieu, les choses que Dieu a créé. À l'Éternel et la terre et toutes les choses qui sont. Psaume 24. Le monde et tous ceux qui y habitent. Là, c'est un bon sens. C'est le monde dans le sens cosmologique, c'est-à-dire la création qui est sortie des mains de Dieu, bonne et belle. Tout ce que Dieu a créé est bon, est beau et bien. Voilà ce qui est sorti des mains de Dieu. Donc, le monde est envisagé justement comme le vaste théâtre merveilleux où Dieu allait placer l'homme pour qu'il le domine. L'homme devait avoir la domination du monde et assujettir la matière et être le roi de tous ces animaux, de toutes les créatures. Ça, c'est le monde dans son sens cosmologique. Mais il y a aussi le monde envisagé dans son sens historique. Et le monde peut représenter les habitants du monde, les hommes. Alors, c'est là que vous avez Jean 3, 16, ce merveilleux verset que vous aimez souvent à citer. Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu a aimé le monde. Mais quel monde? Les hommes qui sont, qu'il a créés. Il les a tellement aimés qu'il a donné pour eux son Fils unique afin que quiconque, vous, moi ou tout autre, n'importe qui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas qu'un homme périsse. La volonté de Dieu, nous la connaissons. Pour lui, il veut sa gloire. Pour notre prochain, il veut son salut. Pour nous-mêmes, il veut notre sanctification personnelle. Et c'est pas à chercher midi à 14h la volonté de Dieu. Nous savons ce que Dieu veut. Sa gloire, le salut du prochain, le bien du prochain, et notre sanctification personnelle, c'est écrit. Alors, nous sommes au courant de la volonté de Dieu, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Et c'est pourquoi nous vous disions que si vous pouviez accomplir la volonté de Dieu, même si cela vous paraît vous coûter, cette volonté de Dieu, quand elle est faite, F-A-I-T-E, elle devient une fête. F-E circonflexe, T-E. Hein. C'est un jeu de mots que je me permets. Si vous acceptez que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie, cela devient une fête. Et Jésus nous l'a montré quand il a dit non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix. Il a passé par-dessus toutes les souffrances et il nous a rachetés. La joie qu'il a de vous avoir rachetés, ça valait la peine de passer par la croix. Eh bien, il a enduré la croix pour nous avoir un jour avec lui dans la gloire, reçu par le Père comme le Fils l'a été lui-même. C'est cela qui est merveilleux. Le Père va nous recevoir comme il a reçu Jésus lui-même. Et déjà maintenant, il ne nous voit plus dans nos péchés, mais nos péchés, il les a vus sur son Fils. C'est de lui qu'il a détourné la tête, il ne la détournera pas de nous. Il a détourné une fois la tête de son propre Fils parce que nos péchés étaient sur lui. Mais maintenant, nos péchés ayant été expiés, nous sommes justifiés, nous avons l'assurance de notre justification par la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas seulement un martyr, mais il est ressuscité, Dieu ayant donné à son être qu'il avait accepté son sacrifice, et nous sommes justifiés par un sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang. Et nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous croyons ce qu'il a dit au sujet de la victoire sur Satan, la victoire sur tous les maux, la victoire aussi sur la mort. Alors dans ce monde donc que Dieu a tant aimé, nous sommes les objets de son amour et comme nous vous le disions, et vous devez le croire et vous emparer cette parole. Dieu vous aime comme il aimait son Fils. Moi, ça me dépasse. Et c'est ce qui me pousse à adorer. Ça, on ne comprend plus en ce sens. on adore. Alors, prosternez-vous, ayez des vies prosternées devant le Seigneur, au lieu d'avoir un fou rêve et où l'on veut toujours se justifier, accuser Dieu. Nous ne pouvons pas accuser Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors, nous nous courbons et nous lui faisons éperdument confiance. Parce que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'accroche à ces vérités et j'en vis. Alors, la troisième signification que peut avoir le monde, et c'est là que vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Dans l'épître de Jean, il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 14 et suivant, n'aimez pas le monde. Alors on dit, mais Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, sinon on ne doit pas aimer le monde. Oui, mais c'est un autre sens. Ici, c'est le monde dans son sens moral et religieux. C'est ce système qui s'est établi depuis la chute où on a exclu Dieu du monde et où l'homme a cru qu'il pourrait régner alors qu'il est devenu l'esclave de Satan. Qui est devenu le prince de ce monde depuis la chute? Pas l'homme, c'est Satan. Qui est le prince de ce monde? Et Jésus a bien dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il est venu dans ce monde qui est occupé par Satan et toutes ses puissances sataniques, et qui va l'être encore davantage dans l'avenir, puisque Satan sera jeté hors du ciel, des lieux célestes, et qu'il donnera sur la terre toute sa puissance, et la possibilité de faire des faux miracles, imitant les miracles des grands prophètes, faisant descendre le feu du ciel comme les prophètes, et il séduira les nations, tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, tomberont dans cette séduction. Avez-vous l'amour de la vérité pour être sauvés? Oh, je veux le croire. Et qu'est-ce que c'est l'amour de la vérité? C'est l'amour pour qui? Qui est la vérité? Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un certain nombre de dogmes. Ce n'est pas croire en des dogmes, c'est croire en une personne. C'est croire en Jésus-Christ. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. N'est-ce pas? Alors, la vérité, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour pour Jésus. Et l'amour pour Jésus, eh bien, c'est l'amour que Dieu avait pour son Fils. Le Fils unique de Dieu, c'était l'amour du Père. C'était l'amour du Père. Alors, vous comprenez mieux ce verset de l'Épître de Jean. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père, c'est qui? N'est pas en lui. Jésus n'est pas en lui. Si je suis encore toujours attiré par le monde, je devrais me poser une sérieuse question. Est-ce que je n'ai accepté que des vérités évangéliques ou bien est-ce que j'ai accepté la personne que me présente l'évangile? Jésus. Parce que vérité évangélique, ça ne nous sauve pas. Jésus ne nous a pas sauvés par ses paroles. Ce n'est pas le sermon sur la montagne dont on aime tant prêcher souvent dans certaines églises. Hein. Les béatitudes. Les béatitudes n'ont sauvé personne. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Est-ce que c'est la vie de Jésus? Non. C'est sa mort. Et il a toujours insisté sur le fait de sa mort. Et qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Annoncer sa mort. Jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que tout a été dans sa mort. Il a donné sa vie pour expier nos péchés, pour nous donner la possibilité de mourir avec lui au péché, pour que nous ne servions plus le péché. Il a donné sa vie dans sa mort pour satisfaire la loi, de sorte que nous ne sommes plus sous la loi. Tous les commandements du « tu dois » et « tu ne dois pas », nous sommes délivrés du joug de la loi. En Christ, nous avons la vraie liberté, nous sommes affranchis pour vivre dans ce monde en nouveauté de vie, et non selon la lettre qui a vieilli, nous dit l'apôtre Paul. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis, il est mort aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu, dispersé. C'est par sa mort qu'il nous rassemble. c'est parce que nous sommes tous des rachetés à grand prix que nous pouvons être ensemble et nous aimer les uns les autres, parce qu'il nous a tellement aimés. Alors, le trésor de notre vie, eh bien, ce doit être Jésus. Et où est Jésus? Là aussi est notre cœur. C'est pourquoi nous devrions être attachés aux choses célestes. De sorte que dans ce monde, nous y sommes vraiment comme des étrangers et des voyageurs. Car qu'est-ce que le monde peut maintenant nous offrir? Qu'est-ce que le monde offre? Convoitise de la chair. Convoitise des yeux. Orgueil de la vie. Méditez sur tout ça. C'est ça qui compte pour le monde. Hein? La chair, et encore la chair. Et nous savons bien que ce qui est né de la chair est. Alors, pour échapper à cette emprise de la chair sur nous, eh bien, où le monde a une puissance à cause des convoitises, parce que le diable, il règne toujours sur nous, en flattant nos convoitises, il excite nos convoitises par ce qui est dans le monde. Or, moi, ce qui me désole, et je le dis avec force, c'est de voir que bientôt, toute l'inspiration, même de certains milieux évangéliques, ils la prennent dans le monde. Tiens, le monde, c'est comme cela, ça réussit dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'introduirait pas ces systèmes, ces moyens dans nos églises? Et c'est ainsi que le flot de la mondanité entre, non seulement dans nos églises, mais dans tous nos foyers. Parce qu'on met devant nos yeux ce qui fait tomber dans le péché, on met devant nos yeux ce qui est mal, et Dieu dit, et il voudrait que je les délivre. Ils veulent me consulter après qu'ils ont consulté tout ce qui se passe dans le monde, et ils veulent faire des réunions de prière pour que cela réussisse. Oh mes amis, les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des hommes qui ne s'inspiraient pas du monde. Ils se tenaient devant Dieu, dans le silence, dans la solitude. Ils n'étaient pas devant un poste de télévision, mais ils avaient la télévision scellée. Et Dieu leur donnait une parole. Et ils pouvaient dire, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Hein? C'est pas drôle. Ils risquaient leur vie quand on allait dire ça à Achab. Élie devant Achab. Mais quelle fin qu'il se prophète, enlevé dans un chariot de feu, parce qu'il était fidèle. Et dans le prophète Jérémie, chapitre 23, lisez ce qu'il est dit des prophètes qui prophétisent le mensonge, qui ont la vision de leur propre cœur, les méthodes purement humaines, et qui disent ce que Dieu ne leur a pas commandé. Paix, tant qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, ça nous fait frémir, plus nous avançons, plus nous sentons notre responsabilité comme serviteurs du Dieu vivant, devant lequel j'aurai à comparaître et devant qui j'aurai à rendre compte de toutes les paroles que j'aurai dites au sujet de son fils. Et on cherche à faire des œuvres, mais les œuvres, Dieu les a préparées d'avance dans ce monde pour que nous les pratiquions. Et il les a créées pour chacun de nous. On se demande la raison de notre vie bien souvent. Mais elle est là. Dieu a créé pour vous des bonnes œuvres. Et alors il nous prépare par diverses épreuves pour que dans ce monde, nous puissions répondre à son intention, à ce que lui désire, comprenons-le une fois pour toutes. Notre raison de vivre, c'est quoi? Le Christ. Pour moi, vivre, disait saint Paul, où le Christ est ma vie, c'est votre vie. Ah, c'est une question bien solennelle. Nous devons laisser les chrétiens parler à nos conscients et à nos vies. Je ne dis pas ici pour vous culpabiliser, mais pour que par la parole de Dieu, sachant quel temps nous sommes, nous soyons réveillés et que nous puissions redécouvrir songer toute autorité, toute puissance, tout pouvoir sont en lui et que, faisant partie du corps de Christ, comme membre du corps de Christ, nous participons à la vie de la tête. Et l'Église et la tête, c'est ça maintenant le Christ total. C'est pourquoi nous croyons que quand il viendra sur les nez, il aura d'abord enlevé les siens pour que le monde puisse voir le Christ total, tête et membres réunis dans cette unité glorieuse que les Églises cherchent aujourd'hui et qu'elles n'arrivent pas à créer. Parce que l'unité chrétienne, elle n'est pas à créer, elle est à garder, elle est à manifester dans cette relation que nous avons personnellement avec la terre. Alors dans cet épître de Jean, il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On est dans le monde, alors c'est difficile de discerner. Non, c'est pas si difficile que ça. C'est nous qui compliquons tout. Vous avez qu'à vous demander, est-ce que c'est du Père que vous vous proposez de faire? Si c'est du Père, allez-y. Mais est-ce que c'est du monde? Vous savez tout. Si c'est du monde, convoitise la chair, convoitise les yeux, cordel de la vie, que le Père. Quoi que vous fassiez, Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que je peux faire ça au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que je peux rendre grâce au Père par lui pour cette chose-là? Le reste, ça ne m'intéresse pas. Plus dans ce monde pour moi-même. Dieu va prendre soin de moi. Vous me direz, oui, mais il faut bien travailler. Oui. Mais notre travail, nous allons le faire de cœur comme pour le Seigneur. Si nous sommes ouvriers, je considérerai mon patron comme étant le Seigneur. Si je suis patron, je considérerai mon ouvrier comme étant le Seigneur. Les relations sont complètement transformées. Et bien sûr qu'il y a des souffrances. Et Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ayez bon courage et vaincu le monde. Est-ce que nous croyons? Alors, s'il a vaincu le monde, nous pouvons aussi, même dans le temps présent, être vainqueurs de toutes les situations. Mais il faut l'exercice de la foi. Et la première chose qu'il faut, c'est vraiment, ce qu'il est dit dans cet épître de Jean, chapitre 5, n'est-ce pas? Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est l'amour entre nous. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. C'est moi qui le dis. Triomphe du monde et la victoire du monde sur le monde, c'est notre foi. Alors pourquoi sommes-nous si souvent abattus? C'est que notre foi est trop petite. Augmente-nous la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, disait Jésus, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il faut revenir à cette foi et qui s'empare des choses invisibles, comme si elles étaient visibles. Et en regardant à l'invisible, nous sommes transformés en la même image. Il y a une puissance qui nous est donnée, la puissance qui a ressuscité Christ dans ses morts nous est donnée. Et nous sommes renouvelés dans l'espérance. Quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il y a encore de l'espérance dans nos cœurs? Le déclin de l'espérance a été annoncé aussi par l'apôtre Pierre, où l'on dira où est la promesse de sa venue depuis que l'on en parle, rien ne s'est passé, etc. Déclin de la foi, déclin de l'espérance. Et Jésus nous a parlé aussi de quel déclin? Déclin de l'amour. Parce que l'iniquité augmentera, prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. Alors il nous faut absolument être renouvelés dans notre premier amour et considérer ce qu'est le monde. C'est le monde qui cherche à nous éloigner de l'amour du Seigneur qu'est-ce que le monde pour toi, qu'est-ce que le monde pour moi, et c'était l'apôtre Paul. Depuis qu'il a vu le Seigneur dans la gloire, il changeait pour lui. Et il peut dire dans les Galates, et je vous cite le chapitre 6, « Pour moi, il m'importe fort peu de juger sur ceci ou sur cela, le monde m'est crucifié, et moi je le suis au monde. » Quand je vois, il y a une heure dans l'humanité, dans ce monde, où Jésus a été vu marchant par l'ange de la terre, c'était Dieu en Christ, Dieu était en Christ, et qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu dans le monde comme la lumière, le monde ne l'a pas fait. Le monde ne l'a pas fait. Et qu'est-ce que le monde a fait de Jésus? Il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Et vous vous faites encore des illusions sur le monde? Le monde en tant que système a osé crucifier Jésus. Et alors le monde en tant que création de Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Ténèbres ont couvert la création. La création ne pouvait pas voir cela. Qu'on crucifie le Créateur. Oh, revenez à la croix. C'est là que le Seigneur a vaincu. C'est là qu'il a triomphé. Mais c'est à la croix que j'apprends à connaître ce qu'est le monde. Il a crucifié le Seigneur. Et alors maintenant, est-ce que le monde va compter sur moi? Peut compter sur moi? Non! Je ne suis plus du monde, c'est Jésus qui l'a dit. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Identifiés au Christ, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et nous savons que Jésus ne prie pas. De toute notre force et de toute notre pensée. Et si vous voulez faire la volonté de Dieu, souvenez-vous que Dieu veut sa gloire. Dieu veut le bien du prochain. Dieu veut notre sanctification personnelle. Et sa volonté participe toujours à sa nature merveilleuse. De sorte que tout ce qui est contraire à la nature de Dieu, nous l'excluons. Parce que cela est du monde, et c'est tout ce qui est contraire à la nature divine. Et puis, maintenant, je dirai encore une chose. La volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il accomplit? C'est Dieu en nous. La volonté de Dieu, ce n'est pas avec ma force que je l'accomplis. Si c'est sa volonté, il donne ce qu'il ordonne. Toutes nos œuvres, c'est toi qui les accomplit pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Si vous devez vous-même faire des efforts et peiner, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Le chemin dans lequel vous êtes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés. Mais ces difficultés nous poussent vers celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre et qui nous communique sa puissance. Or, par la puissance qui agit en nous, croyez que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons espérer et penser. Seigneur notre Dieu, nous te remettons ta parole. Nous y croyons et nous avons l'assurance qu'elle ne retournera pas à toi sans avoir produit le pourquoi tu l'as en toi. Merci de ce que nous avons en toi, la vie, par notre Seigneur Jésus, ô Père, louange et prépare pour cette heure d'adoration que nous sachions pourquoi nous te bénissons, pourquoi nous te louons, pourquoi nous t'adorons, et que ce ne soit pas manger un morceau de pain et boire une gorgée de vin machinalement, mais que nous ayons une communion réellement avec toi, car nous croyons à ta présence réelle, non pas dans les éléments, mais au milieu.